Bonjour à tous. Me revoilà. Me revoilà. Donc je m'appelle Luc Pinède et je suis membre alternatif, intermittent de l'Église, puisque vous êtes l'Église de mes petits-enfants et je vous en suis très reconnaissant. Mais j'habite dans l'Aveyron, loin, et voilà, je suis un voyageur. Je vais donc parler de la parole de Dieu, ce qui est ce que je pense que vous attendez de moi. Ça se fera en trois temps. Il y a un petit préambule. Ensuite, il y a la lecture de la parole de Dieu, qui est la chose la plus importante. Ensuite, mes interprétations, toutes personnelles, que je vous soumets. Et enfin, la conclusion. Certains diront « enfin ». Donc, le préambule, c'est « je suis de ce monde ». Et donc, il va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que je sais bien qu'on est l'ascension. Alors, dans la société civile, au-delà de l'agenda liturgique, il y a l'ascension qui est réputée pour être un pont. Moi, mon intérêt, c'est un viaduc qui va de Noël en passant par Pâques, l'ascension et Pentecôte. Ça, c'est un viaduc. Et je n'en suis pas sorti. Et donc, au moment de faire ma préparation, le choix du sujet, je me suis dit que peut-être je n'avais pas reçu mon lot de Saint-Esprit, que c'était bloqué au détroit d'Ormuz, et que voilà, le bâton n'était pas arrivé. Mais le hasard, qui est la forme que prend Dieu pour rester anonyme, le hasard a fait que ce que j'avais de toute façon prévu dans un triptyque que je vous avais annoncé la dernière fois, rejoint la notion de Pentecôte. Et donc, je vais vous parler du don, le mot don. Ce matin, on en a parlé à la réunion de prière. C'était marrant parce que c'était un texte que j'ai choisi, toujours ce fameux hasard. Et donc, je vais vous parler du don. Vous regarderez dans le dictionnaire, vous verrez que c'est un mot tellement difficile, il a 18 acceptions, 18. Dans cette église, le don principal, c'est ce dont vous a prêché, ce pour lequel Nicolas Odo a prêché, les dons de l'Esprit, dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et donc tout ça, ça paraît assez éloigné. Moi, je vais redescendre à mon niveau théologique de la vie courante, et je traite des sujets courants. Je vous l'avais dit donc la dernière fois, je vais juste faire un petit rappel. Je vous avais expliqué que j'étais dans un cheminement spirituel en trois volets, qui étaient le partage, le don et le service. Et en fait, le don dont je voulais vous parler aujourd'hui rejoint le fait que dimanche prochain, nous recevrons le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc, je vous ai dit que le don était un mot excessivement compliqué, complexe, étendu. Et moi, je vais en parler au sens, sans que ce soit péjoratif, vulgaire. C'est-à-dire que quand je dirais don, je penserai à cadeau. C'est-à-dire, j'étais en propriété de quelque chose et je n'en suis plus propriétaire. J'en ai fait don. Un petit rappel pour la dernière fois où j'ai prêché, j'avais parlé du partage. Le mot partage aussi présentait une ambiguïté. Il y a le partage qui réduit, c'est le partage du gâteau, vous n'en avez qu'une part, et le partage qui augmente quand on partage l'amour, quand on partage la confiance, quand on partage la joie, ça augmente. Donc dans le mot partage, il y a deux sens qui sont assez éloignés. Le partage qui réduit et le partage qui augmente. Ensuite, le don, je vais vous en parler aujourd'hui. Et puis enfin, la troisième fois, si vous me réinvitez encore une fois, et si Dieu m'a prêté vie jusque-là, ça sera sur le service. Donc il faut voir ce que je vais vous dire du don. Parce qu'évidemment, le don, un étudiant en théologie, il peut faire une thèse dessus. Il va passer 3 ans. J'ai été audacieux, j'ai lu un livre, un doctorat de théologie qui en parlait. C'est immensément vaste, 3 ans d'études. Là, je vais juste le caresser, la notion de don. Peut-être pas forcément dans le sens du poil. Donc le don, le fait de donner, c'est-à-dire partager et renoncer à sa part. Voilà. Si on a un gâteau à manger, ben je peux partager, je veux ma part. Et si jamais j'ai ma part, mais je ne la prends pas, je la laisse à quelqu'un qui a plus faim que moi, je l'ai donnée. Donc d'une certaine manière, il y a une forme de logique dans ce que je dis. C'est que le don, c'est un partage où vous renoncez à votre part. Dans ma prédication, il y a deux moments importants, c'est le début et la fin. Le début, c'est le passage biblique, et la fin, ce sera la conclusion. Donc, deux petits textes très courts, très connus. Je vous les remémore, je les rappelle à votre mémoire. Dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 6, Pierre et Jean vont au temple, ils tombent sur un boiteux qui demande l'aumône. Et Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. » Deuxième texte très connu, dont on a parlé ce matin à la réunion de prière, c'est ça qui est bien aussi. L'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 41. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, ce qu'elle possédait, ce qu'elle avait pour vivre. » Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu selon la formule consacrée. Et maintenant, je vais m'autoriser deux anecdotes que je trouve du temps présent. Si ça peut être affiché. Voilà une phrase qui est dite paradoxale. Ce que j'ai donné est à moi pour toujours, puisque personne ne peut me le reprendre. Ça peut paraître étonnant. C'est une nouvelle version de... Quand j'étais petit, on avait beaucoup de proverbes, de principes, on disait « donner, c'est donner, reprendre, c'est brûler ». Donc dans le don, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que souvent le mot est confondu entre l'acte et l'objet du don. Deuxième anecdote, il s'agit d'un jeune homme de nos jours, hyper, méga, super, totalement rigide. Un type carré plus que carré. Une discipline excessive, obsessionnelle. Il ne se sent bien que dans un cadre hyper sécurisé. Tout doit être calculé, étudié. Il pense maîtriser tout, y compris son argent. Y compris son argent. Et donc, chaque début de mois, quand la paye tombe, c'est un véritable rituel de distribution, ça, 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 ça. Et dans ce qu'il considère être sa dîme, il veut faire la différence entre l'Église et les œuvres. Peut-être un jour on en reparlera, de la laïcité sous cet aspect-là. Certaines personnes attendent à ce qu'on fasse une différence fondamentale. Dans les associations, vous avez bien remarqué qu'il y a chez nous des associations cultuelles et des associations culturelles. Et donc, il a décidé qu'il donnait dans sa dîme 10% de ses revenus, une somme à l'Église et une somme au mendiant qui est en bas de chez lui, qui est là depuis longtemps et qui croise tous les matins dans l'Église. Il passe et lui donne 10 euros. Et il va à l'Église. Le mauvais temps, la tempête, les difficultés. comme tout le monde, à un moment ou à un autre, ça lui arrive, il y a grosse réduction de ses revenus, et toujours dans cette discipline qui le caractérise, il réduit tout. Et donc, le dimanche d'après, quand il passe devant le mendiant, il donne 5 euros. Il va à l'église, il revient. Le mendiant dit rien. Dimanche d'après, il repasse 5 euros. Et au bout de 3 fois, on estime qu'il y a itération, le mendiant s'autorise à... Je peux vous demander quelque chose ? Oui, bien sûr. Comment ça se fait que, depuis longtemps, vous me donniez 10 euros, et puis maintenant, vous ne m'en mettez que 5 ? J'ai fait quelque chose de mal ? Le type dit, non, vous n'avez rien fait de mal, c'est mes revenus, j'ai une femme, un enfant, je dois les nourrir, et tout, je réduis tout. Et le mendiant dut lui dire, en somme, tu nourris ta femme et ton enfant avec mon argent. Cette anecdote me touche parce que, aussi bizarre qu'elle soit, étonnante, il y a une part de justesse. Il y a une part... Il est en droit de le penser, puisqu'on a la liberté de conscience, et il est en droit de le dire, il le prend, ce droit. Il dit, tiens, je vais lui dire que c'est dégueulasse, qu'il me coupe à la moitié de mon revenu. Donc, le don. Le but... et je terminerai par là, c'est d'expliquer que le don n'est pas un acte autonome. Ça n'est pas un acte où vous êtes seul en cause. Le don doit être une relation. Non seulement vous donnez, mais la personne en face doit accepter. Et très souvent, il me semble que dans le don, on se considère juste soi-même. J'ai donné. Vous entendrez rarement des personnes vous parler. En plus, ça fait mesquin de lui dire, voilà ce que j'ai pu lui apporter. Il y a l'orgueil qui est caché derrière. Et donc, très souvent, on va parler du don uniquement par rapport à soi. Et donc le rendre un acte individuel autonome. Non, c'est un acte double. Je vois le trésorier. J'ai été membre d'une église... dans l'Aveyron, on avait une dame âgée qui, d'un seul coup, s'est mise à mettre des chèques très importants dans le tronc. Et donc, on a eu un cas de conscience et on a décidé qu'on ne pouvait pas accepter. Et donc, la dame a été grandement fâchée, mais on a demandé à ses enfants de venir et on a demandé à ses enfants s'ils étaient d'accord pour qu'elle... On ne pouvait pas accepter... En pensant, et on en a parlé ce matin avec Monique, que cette personne pouvait être vulnérable. Et en étant vulnérable, on ne pouvait pas être à l'origine de ce que la loi va déclarer recel. Je vais y venir. Pour ceux qui l'ignorent, dans une autre vie, je n'étais pas une cerise dans une autre vie, j'étais gendarme. Et donc je connais un certain nombre de choses vis-à-vis de ce qu'on appelle la loi pénale. Et je vous parlerai du recel, qui est une infraction complexe par rapport au vol. Donc, le don. On est évidemment invité au don. C'est même un ordre, c'est une prescription. Dans le Lévitique, c'était pas une époque où on votait facilement. Et dans le Lévitique, il est dit, tu donneras 10% de ta récolte et les prémices pour le service de l'Église. Déjà, à l'époque, ils avaient bien compris qu'on ne donne pas à Dieu, hein. Vous donnez pour le service de l'Église. Dieu n'a pas besoin de manger la chair des agneaux ni des boucs. C'est écrit clairement dans les psaumes, je crois. Où Dieu n'a pas besoin de ce qu'on lui offre. Et donc, ce n'est pas à lui qu'on offrait des veaux, des bœufs, des agneaux purs et sans tache. On les brûlait pour que leur parfum soit d'agréable odeur à Dieu. C'était par rapport à ce qui va nous manquer à nous, à notre sacrifice, ce qu'on a donné. Donc le don est prescrit. Il n'est pas question que je discute là-dessus. C'est prescrit. C'est prescrit, mais il peut y avoir des côtés nébuleux. Il peut y avoir des côtés dangereux, je vous invite à y penser. Je vais faire un parallèle aussi, un peu qui pourra être étrange, si vous voulez, on en parlera. En ce moment, on va parler des sources d'énergie. Alors, les sources d'énergie, et une question à laquelle je ne vous demande pas de répondre, parce que je vais donner la réponse, c'est est-ce que l'électricité est une source d'énergie ? Réponse, non. L'électricité n'est pas une source d'énergie. La source d'énergie, c'est le soleil, l'atome, ce que vous brûlez, le charbon, le bois, que sais-je. Quand vous pédalez sur le vélo, vous pouvez y brancher une régénératrice. Et donc, l'électricité n'est pas une source d'énergie. Dans le même esprit, la générosité n'est pas une motivation. C'est complexe. Quelqu'un peut être généreux pour de mauvaises raisons. Et donc, la générosité n'est pas une source de motivation. C'est une attitude, c'est une façon d'être, c'est quelque chose que vous utilisez. Mais c'est comme l'argent, c'est ni mauvais ni bon en soi. C'est ce que vous en faites qui compte. Donc, la générosité n'est pas une motivation. C'est une attitude. C'est ainsi que je vais vous parler de cadeaux. C'est bien les cadeaux, mais on n'est plus des petits-enfants. On n'est plus des petits-enfants. Même les petits-enfants, il faut absolument qu'ils aient lu Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. Parce que quand même, la sorcière, elle offre une pomme. Et la pomme, elle est empoisonnée. Il y a donc des cadeaux empoisonnés. Évidemment, un petit enfant ne va pas y voir malice. Mais nous, être dit responsable, quand on vous donne quelque chose, vous en êtes responsable aussi. Et j'allais dire pénalement responsable. Si quelqu'un vient prouver que ce que vous avez accepté comme cadeau était une chose volée, vous devenez receleur. Et vous méritez la prison. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Donc il y a des dons. Je voulais vous parler dans le sens de ne pas caresser cette notion de don dans le sens du poil. Il y a des dons qui sont dangereux, qu'il faut refuser, pour les jeunes surtout. Le cadeau de la première cigarette, ce n'est pas puni. Je ne parle pas de la drogue. Au début, c'est non seulement pas cher, mais on va vous la donner. C'est évidemment un cadeau empoisonné. Dans la série des dons étranges aussi, est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas ? Oui. Oui, oui. Vous pouvez donner ce que vous n'avez pas. Un médecin malade va vous guérir du cancer. Et figurez-vous que le cancer tombe aussi sur les cancérologues. Et ce cancérologue qui n'a pas la santé et qui a un cancer va quand même vous soigner du cancer. Il va vous donner, il va pratiquer son art, le bonheur. Les gens donnent du bonheur, ils n'en ont pas eux-mêmes. La joie, je n'en parle pas. Je suis très intéressé par l'humour. Si vous saviez les dessous de tiroir et la détresse de certains humoristes, ça fait peur. Maintenant, il est décédé, et puis c'est de notoriété courante, mais Raymond DeVos a fait un nombre de séjours incalculables dans des hôpitaux psychiatriques. Francis Blanche était un désespéré. Donc, pour parler que de... Je ne parle pas des récents, mais... Vous pouvez donner ce que vous n'avez pas. Je vous ai parlé des dons qui pouvaient être mauvais. Vous pouvez donner ce que vous n'avez pas. Vous pouvez aussi donner des cadeaux inutiles. C'est gaspillé, ça. C'est, comment dit l'autre, c'est gâché. Quelqu'un vit en cage. Il est en cage. Vous lui donnez de l'or et il va vivre dans une cage en or. C'est quand même gâché. c'est gâché. Vous lui donnez la clé, il la laisse sur la serrure, il est bien dans sa cage, et quand on va lui donner de l'or, ben, il va vivre dans une cage en or. C'est le type même d'un cadeau inutile. Après, les petites anecdotes que vous pourrez retrouver aussi par vous-même ou appliquer. On peut offrir un lit, mais pas le sommeil. On offre de la nourriture, mais pas un repas. On offre une maison, mais on n'offre pas un foyer. Vous offrez un médicament, vous n'offrez pas la santé. S'il n'y a pas la bonne posologie, s'il n'y a pas tous les contextes, voilà, vous en trouverez autant que vous voudrez. Et puis le don le plus vicieux, celui que Dieu voit, puisque Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je ne l'ai pas inventé. Dans l'histoire, ce n'est pas une parabole. Dieu dit à ses disciples, « Cette femme a donné beaucoup plus que les autres. » Il ne dit pas à ses disciples, il ne dit pas à Judas qui tenait la bourse, « Tiens, toi aussi, va mettre 10 deniers dans le tronc. » Il ne le dit pas. Jésus doit savoir que l'argent qui est mis dans le tronc servira à payer les soldats qui vont venir l'arrêter. Il n'était pas naïf, c'est le moins qu'on puisse dire. Chercher de la naïveté chez Jésus, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas, chercher de l'eau dans le désert, pareil. Hein. Ou un péché dans sa vie. Et ainsi donc, il n'est pas naïf, mais il dit d'admirer par rapport au sacrifice personnel qu'elle fait. Quand les riches donnent de leur superflu, elle donne de son nécessaire, elle fait pénitence. Comme elle se serait fouettée avec des orties, ou voilà, il y a d'autres, plusieurs manières de faire, mais dans le même esprit. Pour nous qui regardons ça un peu à côté, est-ce que le don valait le coup ? Non, parce qu'il a fallu beaucoup d'or pour pouvoir construire le temple, et il a fallu 2 légions de César pour le raser. Et donc Dieu regarde au cœur. Il regarde ce à quoi vous pensez quand vous faites un don. Vous pouvez par exemple en France hériter de la terre. On vous l'a donnée parce que vos parents sont morts. Est-ce que c'est un lot de consolation ? C'est horrible à dire, mais il y a une propriété de la terre en France. Ce n'est pas le cas en Israël. En Israël, la terre elle n'appartient pas, elle est gérée par l'État, et quand vous voulez un terrain, on vous fait un bail emphytéotique de 49 ans qui sera remis en cause au moment du jubilé. Et donc c'est un slogan écologiste que je l'aime bien, je n'hérite pas de la terre, je l'emprunte à mes enfants. Voilà qui est beaucoup plus juste dans le cadre du don, et du fait que je renonce à ma propriété. J'y renonce. Dans l'exemple que j'ai pris de Pierre et Jean, on lui demande l'aumône, il dit « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne », et il est guéri. Mais si vous prenez l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 6, Jésus s'assure avant « Veux-tu être guéri ?» à quelqu'un qui lui demande l'aumône. Les gens vont sourire. Évidemment qu'il veut être guéri. Mais où il va chercher ça ? Il était peut-être très bien nourri, logé, blanchi. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir de prison. Des fois, je le raconte, ça paraît vraiment étrange. On est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, vous vérifierez ce que je vous dis, parce qu'on a en France un prisonnier qui est en prison depuis 40 et quelques années. Et donc on considère que c'est pire que la peine de mort, et on a été condamné. Et quand on veut le mettre dehors, il dit qu'il ne veut pas aller dehors, qu'il est très bien dedans, que c'est sa vie, qu'on le laisse tranquille. Et quand on lui dit « on va te mettre dehors de force », il va dire « vous êtes complètement dingue, je vais prendre un poignard, le premier que je vais voir, je vais le pointer, vous serez bien obligé de me rentrer ». C'est un homme qui sait gérer le paradoxe. Heureusement, on a pris des gens qui en ont dans le cigare. Ils ont trouvé une solution que je trouve magnifique. Ils ont fait une porte à sa cellule qui donne dehors. Ils disent, s'il veut sortir, il peut. Mais il reste dans la prison. Et ainsi donc, voilà le but de mon message. Je le répète, le don n'est pas un truc exclusivement personnel pour lequel vous n'avez à avoir rendre compte qu'à vous-même. Vous devez voir le don dans le cadre d'une relation. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il l'accepte et il faut que ce ne soit pas fait dans un mauvais esprit. J'espère que je ne vais pas m'étrangler parce que chaque fois que je la raconte, je m'étrangle. Je vous mets au défi. Une anecdote dans un hôpital pédiatrique cancéreux, pas drôle, hein ? Des enfants de 5-6 ans qui ont des leucémies. Et un jour, le pauvre médecin qui est là, il n'aurait jamais cru ça possible. Il est au service des entrées et des sorties, et pendant qu'il y a un enfant qui sort, il y a un enfant qui rentre, aplasie médulaire grave, immédiate, foudroyante, etc. Une petite fille qui va décéder. Et il est en train de traiter quelqu'un qui est guéri et qui s'en va. C'est un médecin chevronné. Il a les deux dossiers dans les mains. Il regarde. Totalement compatible. Il n'en croit pas ses yeux. Il a les deux dossiers dans les mains. Il regarde les parents de celui qui sort. Il dit, voilà, voilà votre bonne sortie. Mais il est en train de rentrer une fille qui va sans doute mourir et votre fils est totalement compatible. Est-ce que vous acceptez qu'il y ait une transfusion ? Évidemment, dit la mère. Il demande au petit et il demande aux parents de la personne qui rentre. Et 5 minutes après, on se trouve dans la salle derrière, les deux enfants sont côte à côte transfusés. Tout est bien, l'histoire aurait pu se terminer là. Et franchement, ce que je vous raconte n'avait aucun intérêt. Sauf que le médecin, il regarde le petit donneur, et puis il voit qu'il est un peu étrange. Alors il regarde le donneur, il dit, qu'est-ce qui t'arrive, gamin ? Il y a un problème, il y a un souci. Et là, le gamin lui dit, à la petite fille, là, il faudra lui donner que la moitié de mes jouets, parce que l'autre moitié, je la veux pour Paul, mon copain. Le regard, lui dit, mais pourquoi tu veux qu'on donne tes jouets ? Mais le gamin, Candide, il dit, ben, vous me prenez le sang, je vais mourir. Personne ne lui avait dit. On lui a demandé s'il voulait être transfusé à 5 ans. Personne ne lui a dit. Quand on a piqué, qu'on a vu que son sang partait vers l'autre, il a compris ce qu'il voulait comprendre. Et cette image est terrifiante. On n'avait pas dit, il a imaginé et il a accepté de donner son sang à une petite fille malheureuse. Je vous ai dit que le don était une notion immense, absolument immense. Dans les mauvais aspects du don, je vous ai dit qu'il y avait le fait de créer un esprit de dette. Vous pouvez donner, mais si vous estimez que la personne, si elle est normale, elle va vous le rendre, elle va parler aux autres, elle va... Si vous y avez mauvais esprit, ça va se retrouver. Et quand on lit la Bible de Chouraki, par exemple, le Notre Père, qui est un canon, c'est un canon, tout le monde le connaît, on s'y appuie dessus, rien ne change. Pourtant, lui, il y a des mots qui ont changé, il y a deux choses qui ont changé. Chouraki, au lieu de « pardonne-nous nos offenses », il dit « remets-nous nos dettes, comme nous remettons nos dettes à ceux qui nous ont empruntées ». Il s'autorise ça. Il y avait ça, et puis « ne nous soumets pas à la tentation », on l'a changé en « ne nous laisse pas entrer en tentation » pour donner un esprit différent. Comme quoi, le dogme n'est pas fait pour être bougé, mais il est fait pour qu'on se l'approprie et qu'on y réfléchisse. Et ainsi donc, il y a, comme je vous ai dit, qu'il y avait des cadeaux empoisonnés, comme je vous ai dit que, voilà, on devait être au maximum conscient de ce qu'on fait, en sachant que quand on donne, il faut absolument que l'autre reçoive et qu'il n'y ait pas de malentendu. Dieu regarde au cœur. Nous devons être responsables et conscients de ce que nous faisons. Et je vais terminer par évidemment le plus important. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu donner sa vie pour nous. Il est de notre devoir impératif de l'accepter, de le reconnaître et de l'accepter. C'est un don gratuit de Dieu pour la réconciliation des hommes, pour l'effacement du péché. Nous ne pouvons pas être, ça a été dit ici aussi, dans la. Dieu ne prend pas de force. Il demande votre adhésion. Il n'y aura pas de preuve de mon existence. Vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez. Eh bien, vous le trouvez quand, en expliquant aux gens qu'ils ne peuvent pas reconnaître le sacrifice de Jésus, mort à la croix, s'ils ne le reconnaissent pas, s'ils ne l'acceptent pas, s'ils ne l'intègrent pas pour eux-mêmes dans leur vie, comme ayant reçu un cadeau dont il était indigne, mais qu'il ne peut pas mépriser. Vous avez une attitude. Beaucoup de gens vont dire, bon, il a donné sa vie, ça le regarde. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Là, j'ai pas le temps, mais tant pis. J'étais gendarme, je vous ai dit. À une époque, on a parlé de chez nous d'un martyr qui s'appelait le colonel Arnaud Beltrame. On a peut-être entendu parler, c'est il y a quelques années. Il est allé prendre la place d'une otage et il est mort du côté de Carcassonne, là-bas, il y a quelques années. Et j'entendais beaucoup de gens qui disaient qu'il était mort en martyr. Et j'étais obligé de rectifier que non, il n'était pas mort en martyr. Il était mort parce que c'était un soldat, qu'il allait au combat et qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas donné sa vie. Il est allé sauver une femme, c'était son orgueil, c'était sa vocation, c'était son métier. Il n'est pas mort en martyr. Il n'a pas échangé sa vie contre celle de l'autre. Je me suis attiré des mauvaises réflexions. Et je l'ai pris pour moi. Mais tant que vous n'acceptez pas réellement le don et que vous n'avez pas une pleine conscience et une pleine responsabilité de ce qu'on vous offre, je crois que vous péchez. Je vous remercie.